Alors, ce matin avec vous, en fait, je sais qu'on est le 14 juillet, donc je remercie d'ailleurs le groupe de louanges, tiens, pour ce qu'ils ont conduit ce matin. Dorian avait proposé qu'on puisse faire quelque chose de très patriotique. Tu avais parlé d'accordéon à un moment donné, non ? Dans les mails. Mais bon, tu vois, j'ai pas osé. Je suis même pas sûr que j'aurais pu sortir quelque chose d'adapté. Ah, t'as la couleur d'Yvette Horner, c'est ça. On verra si Jean-Luc, le jour de la fête nationale belge, quand tu prêcheras, tu auras à cœur de venir avec un maillot belge. J'ai failli oser le maillot de l'équipe de France, mais bon. Alors, je vais quand même vous parler de quelque chose qui est, on va dire, un petit peu en rapport. Ce matin, j'ai eu sur mon cœur de pouvoir parler avec vous de la notion de développer un cœur victorieux. Le 14 juillet, c'est un moment où on fête un peu une forme d'unité nationale, où on fête une certaine victoire, la prise notamment de la Bastille, même si ça a amené après des heures complexes pour le pays. Moi, j'ai envie de vous parler de cette notion du cœur victorieux. Et pour ça, on va du coup se focaliser sur le fait que la notion du cœur, telle que je l'ai développée, et je vais la développer ce matin, c'est dans le sens biblique, bien sûr. C'est pas dans la notion du cœur d'un point de vue physique, l'organe. C'est le cœur dans le sens biblique, siège des pensées, de l'intelligence, réceptacle aussi de toute notre conscience, de nos choix aussi à un moment donné, de nos bonnes, de nos mauvaises décisions, aussi de toute notre part de sentiments, de courage, tout ça. Alors je vous propose un petit voyage dans le passé, et puis on va ce matin s'intéresser à la vie de deux hommes qui sont liés familialement. Et on va commencer par un homme, Saül. Alors c'est pas Saul hein, dans le Nouveau Testament, c'est Saül dans l'Ancien Testament. Et dans, je vais brosser un petit peu son tableau à Saül, passer par quelques notions un petit peu spécifiques sur ce personnage qui n'a pas forcément bien terminé sa carrière de roi. Et on va voir ça un petit peu ensemble. Et puis dans un second temps, je m'intéresserai à son fils Jonathan. Alors Saül, tout d'abord, il faut savoir que ça a été un homme qui a été appelé par Dieu, qui a été oint par Dieu. Quand on regarde dans le livre de Samuel, le livre de Samuel, il est composé de deux livres, 1 Samuel et 2 Samuel. Et ces deux livres sont vraiment des livres qui montrent l'action de Dieu par rapport à son peuple d'Israël. Et cette action, elle est développée à la fois sur la disposition du cœur de Dieu pour son peuple et à la fois sur la disposition du cœur de l'homme. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans 1 Samuel et 2 Samuel. 1 Samuel, c'est vraiment autour de tout ce que va mettre en œuvre Samuel, quand il a été appelé. Puis après, avec le peuple d'Israël qui va réclamer un roi, ça sera Saül. Et ensuite, on va avoir un début d'abord sur la notion de l'appel de David, qui va prendre la place de Saül. Et puis 2 Samuel, c'est vraiment autour de toute la vie de David, de tout ce qu'il a mené. L'idée de Dieu par rapport à ces deux livres, en tout cas quand on regarde d'un point de vue théologique ce qui est exprimé, c'est que normalement l'aspect prophétique, on en a beaucoup parlé ces derniers temps dans l'Église, et l'aspect de la royauté, parce que ce n'était pas ce qui était prévu initialement pour Israël, mais Dieu a entendu le cœur d'Israël qui voulait un roi, puisqu'au départ il n'y avait que des prophètes, puis avant on avait des juges. Dieu, ce qu'il souhaitait, c'est que l'aspect prophétique, donc là en l'occurrence Samuel, et l'aspect de la royauté ne devaient pas être déliés. Et il devait être correctement assumé pour répondre pleinement au plan de Dieu, au fait que le peuple d'Israël puisse avoir une réelle proximité avec Dieu. Ça, c'était le plan de Dieu. Entre-temps, il y a l'aspect humain, on va voir, de Saül qui s'est intégré là-dedans. Et le plan ne s'est peut-être pas déroulé tel que c'était prévu initialement. Après, Dieu est souverain, donc il a orienté les choses aussi d'une autre manière. Il a appelé David pour prendre la suite. Alors Saül, si vous voulez retrouver un petit peu l'histoire de son appel, je ne vais pas la prendre en entier, ce serait un petit peu long et je n'aurai pas le temps de développer ça ce matin parce que j'ai d'autres passages que j'aimerais qu'on voit ensemble. C'est dans 1 Samuel 9 et 10, vous pouvez retrouver toute la notion de l'appel de Saül et on voit vraiment que c'est conduit par Dieu, il y a même une double confirmation sur son appel. C'était le premier roi d'Israël et son nom, Saül, ça signifie le demander et sous-entendu par le peuple, puisque le fait qu'il y ait un roi, c'était vraiment le peuple d'Israël qui avait exprimé cette demande. C'est quelqu'un qui présente bien à l'initial, Saül. Si on regarde un petit peu sa lignée, il est plutôt issu d'une bonne éducation, dans le descriptif qu'en fait, qu'on entend de Samuel, et puis dans 1 Samuel 9, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui paraît bien. Hein. Initialement, Saül, il va même être amené à prophétiser. Il est plutôt issu aussi d'une bonne famille du peuple hébreu, une famille qui avait un certain nombre de moyens. Et il est oint par Dieu. Oint par Dieu, dans l'Ancien Testament, ça a quand même une notion où la personne, à un moment donné, quand elle est appelée par Dieu, il y a un appel à une responsabilité supplémentaire par rapport au peuple qui va avoir, entre guillemets, en dessous de lui, d'un point de vue de sa royauté. Un point qui est intéressant, je ne connaissais pas, en préparant le message, j'ai vu ça, c'est que le nom de Samuel, en fait, c'est issu de la même racine hébraïque que Saül. Et en fait, Samuel, ça signifie aussi « le demander ». Sauf que Samuel, ça signifie « le demander, mais par le Seigneur ». Et quand on remonte à l'histoire de Samuel, il y a vraiment cet aspect où dès sa plus tendre enfance, même avant qu'il naisse, en fait, il est quasiment déjà consacré à Dieu. C'est une petite distinction, mais c'est assez important parce que finalement, ça va conduire un certain nombre de choses pour après. Alors, on va prendre un petit peu plus loin dans 1 Samuel 12, pour toujours cette notion d'appel. Et donc, c'est Samuel qui parle. « Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez réclamé. L'Éternel a bien voulu établir un roi sur vous, à condition que vous craigniez l'Éternel, que vous le serviez, que vous lui obéissiez, que vous ne vous révoltiez pas contre sa parole, mais que vous attachiez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous vous révoltez contre sa parole, la main de l'Éternel se portera contre vous comme elle s'est portée contre vos ancêtres. » Et si on va un petit peu plus loin, toujours chapitre 12, Samuel, en fait, va réappuyer ce qu'il vient de dire. « N'ayez pas peur, vous avez fait certes tout ce mal, puisque le peuple, à un moment donné, se pose quand même la question de se dire « oui, mais en même temps, on demande un roi, mais on a peut-être fait des choses qui n'étaient pas en accord avec notre Dieu. » Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur, ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Je ne veux certes pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous, au contraire, je vous enseignerai le chemin bon et droit. Seulement craignez l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en effet quels actes extraordinaires il a accomplis parmi vous. Si, en revanche, vous faites le mal, vous disparaîtrez, vous et votre roi. » Et on retrouve cette notion quand je parlais du fait d'être oint. Là, Samuel réappuie vraiment dans son partage. Il investit le peuple, mais il investit énormément Saül par rapport à sa responsabilité envers le peuple à un moment donné. C'est-à-dire que si Saül est source, à un moment donné, de détournement de la face de Dieu, que ce soit envers lui-même ou envers le peuple d'Israël, les conséquences sont parfaitement expliquées dès le départ. Et on va voir que Saül, même si il va avoir un premier démarrage sur un ou deux chapitres qui sont à peu près corrects, il va avoir des victoires, mais très vite, à un moment donné, il va basculer. Saül, un homme fautif et au cœur malade, c'est ce qu'on va voir. Et là, je vous encourage, si vous avez votre Bible, sinon je vais le lire. On va prendre quelques versets dans 1 Samuel 13, 1 Samuel 14 et 1 Samuel 15. Sa première faute, c'est 1 Samuel 13, versets 5 à 15, et je vais le lire. « Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars, 6 000 attelages et des troupes nombreuses, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils dressèrent leur camp à Michmas, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent en détresse, car le peuple était serré de près. Ils se cachèrent dans des grottes, dans les trous, dans les rochers, dans les caves et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore au Gilgal, et tous ceux qui se trouvaient derrière lui tremblaient. Il attendit 7 jours jusqu'au temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas, et le peuple se dispersait. Alors Saül dit « Apportez-moi l'holocauste et les sacrifices de paix. » Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le bénir. Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu le peuple se disperser, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que le Philistin était rassemblé à Micmas, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi au Gilgal et je n'ai pas apaisé le Seigneur. Alors je me suis fait violence, j'aime bien ce terme, c'est genre, je me suis senti un peu, oui, j'étais dans l'obligation, tu comprends. Je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi stupidement. Tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Le Seigneur aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple parce que tu n'as pas observé ce que le Seigneur t'avait ordonné. Première alerte, et ici, Samuel, du coup, lui le prévient qu'en fait, sa royauté ne subsistera pas, qu'il y aura une autre personne appelée, sous-entendu en plus quelqu'un qui ne sera pas forcément de sa lignée. Voilà, parce que normalement, les rois, vous savez un petit peu comment ça se passe, c'est la lignée familiale qui suit après, normalement. On va aller dans 1 Samuel 14, et donc au verset 24. On va voir qu'en fait, Saül ne va pas s'en tenir à cette première faute. Il ne va pas forcément, finalement, entendre l'alerte que Dieu avait pu donner. Les hommes d'Israël, du coup, étaient serrés de près en ce jour-là. Alors Saül imposa une adjuration à la troupe en disant « Maudit soit l'homme qui mangera avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Dès lors, personne ne mangea rien. Tous les hommes du pays étaient arrivés dans la forêt. Il y avait du miel partout. Lorsque la troupe arriva dans la forêt, le miel y coulait, mais personne ne porta la main à la bouche, car la troupe respectait le serment. Jonathan n'avait pas entendu que son père avait fait prêter serment à la troupe. Il avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, la plongea dans un rayon de miel et ramena la main à sa bouche. Ses yeux se mirent à briller. Alors quelqu'un de la troupe lui dit « Ton père a fait prêter serment à la troupe en disant « Maudit soit l'homme qui mangera aujourd'hui ». Or, la troupe était fatiguée. Et Jonathan dit, « Mon père a attiré le malheur sur le pays. Regardez, je vous prie comme mes yeux brillent, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. » Alors, on n'a pas la notion d'hypoglycémie qui apparaît, mais tel que c'est décrit, moi qui suis infirmier et qui suis du milieu soignant, c'est ce que je peux en comprendre. C'est, en gros, la troupe, elle était à jeun. Vous imaginez des soldats avec leur... vous n'avez pas les armes comme aujourd'hui, mais à mon avis, ils avaient quand même un certain nombre d'éléments avec eux qui étaient assez lourds. Ils avaient marché... C'est stressant, ils allaient à la guerre, etc. Donc, à mon avis, ils n'étaient pas très bien sur le plan physique. Et on voit qu'ici, Saül prend une décision, mais qui paraît complètement stupide. Envoyer des hommes à la guerre qui n'ont pas mangé et qui sont à jeun et qui vont faire une hypoglycémie, enfin, je ne sais pas vous, moi, si j'étais chef à un moment donné dans une armée, ce n'est pas du tout la décision que je prendrais. Donc, il y a un manque de sagesse de sa part. Et ensuite, on va aller un peu plus loin, au verset 31-36. Alors, ils bâtirent ce jour-là les Philistins, depuis Micmac jusqu'à Ayalon. La troupe était très fatiguée et elle se jeta sur le butin. Parce qu'entre-temps, ils n'ont pas pu manger quand même. Il y a Jonathan qui s'est alimenté, lui, il a pris du miel. Il n'était pas au courant, mais les autres, non. Donc, on peut comprendre qu'il ne soit pas très, très bien. Elle prit du petit bétail, des bœufs et des veaux, les immola sur la terre. La troupe mangea au-dessus du sang. Alors, juste... pour notion, c'est que normalement, voilà, le peuple ne pouvait pas faire ça d'un point de vue de ce qui était institué au niveau des commandements, de tout ce qu'on retrouve à l'époque de Moïse sous la loi. Maintenant, c'est Saül aussi qui les a emmenés vers cette notion-là, et la troupe devait être complètement à bout de force. Je continue. On dit à Saül, la troupe pêche contre le Seigneur en mangeant au-dessus du sang. Saül dit, vous êtes conduits comme des traîtres, roulez tout de suite vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, dispersez-vous dans la troupe et dites à chacun de m'amener son bœuf, son mouton, sa chèvre et de l'immoler. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez pas contre le Seigneur en mangeant au-dessus de sang. Pendant la nuit, chacun amena son bœuf afin de l'immoler à cet endroit. Saül bâtit un autel pour le Seigneur, c'est le premier autel qu'il bâtit. Et si on va un peu plus loin au verset 37... À ce moment-là, en fait, Saül va réinterroger Dieu parce qu'ils ont la possibilité dans la nuit de réattaquer les Philistins. Mais Dieu ne va pas lui répondre et va rester totalement silencieux. On verra un petit peu pourquoi par la suite quand j'aborderai Jonathan. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que Saül, donc on a vu sa décision qui est très interpellante en tant que leader d'homme. On ne sait pas trop pourquoi finalement il fait ça. Et puis il gagne quand même la bataille. Et il y a un aspect derrière de réaction où, OK, son peuple fait quelque chose qui n'est pas prévu par la loi, mais qui, d'un point de vue humain, peut être compréhensible. Et là, il réagit de manière mais hyper religieuse. Oh, stop, hop, 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 on refait tout correctement. Et après, alors qu'on en est au deuxième fait qui est un peu interpellant et qui est raconté, il y en a peut-être eu d'autres qui ne sont pas livrés dans les textes, Dieu ne lui répond pas. Dieu se tait par rapport à la situation. Et on va aller enfin dans 1 Samuel 15. Et là, je vais prendre du coup le verset 3, où en fait Samuel dit à Saül d'aller attaquer Amalek. Et il lui dit, va maintenant, attaque Amalek et frappe d'anathème. Alors sous-entendu, derrière anathème, c'est tuer, du coup complètement. Tout ce qui lui appartient, tu n'épargneras pas, tu mettras à mort hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, moutons, chèvres, chameaux et ânes. L'anathème, ça renvoie au fait aussi que du coup le peuple là, d'Amalek, il y avait toute une notion d'impureté, de péché derrière. Et donc au verset 9, qu'est-ce qu'a fait Saül ? Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que tout ce qu'il y avait de meilleur dans le petit bétail, le gros bétail, les bêtes, la seconde portée et les jeunes béliers, tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne frappèrent pas tout cela d'anathème. Ils ne frappèrent que ce qui était chétif et méprisable. Et donc là, on se retrouve à nouveau sur une désobéissance de Saül par rapport à ce que Dieu a demandé. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas le lire là, je le laisse sur le diaporama. Si vous voulez aller lire, vous pourrez. Mais on va avoir en fait, du coup, dans 1 Samuel, versets 10 à 35, j'ai oublié le chapitre, mais c'est à la suite. Du coup, oui, c'est au chapitre 17. Du coup, non, c'est pas 17, c'est 16. C'est au chapitre 16. Et donc, je vais juste prendre le verset 13. Ou non, c'est avant. Non, c'est au tout début, pardon. Donc, ne tenez pas compte de la référence. En fait, c'est à ce moment-là où, du coup, Samuel va complètement rejeter Saül de la part de Dieu, vraiment, et Dieu va appeler David, en fait, comme nouveau roi. Ce qu'on constate dans la vie de Saül, c'est qu'après tout ça, quand vous prenez toute la suite de Samuel, si vous avez le temps et si vous avez ça à cœur, vous pouvez lire dans la suite de 1 Samuel, après le chapitre 15, on va avoir un roi, du coup, qui va être énormément dans l'immobilisme. C'est ce qui va se passer quand vous connaissez tous l'histoire de David contre Goliath. Saül va demander à un de ses soldats, il va dire, voilà, que celui, à un moment donné, qui a le courage, en gros, y aille. Mais jamais il va se mobiliser réellement pour lui-même aller combattre Goliath. Alors qu'en tant que leader, on aurait pu se dire, c'est peut-être sa place aussi de montrer à son peuple. C'est un roi qui va être continuellement dans la peur, dans la tourmente, dans la colère, dans la haine. Puisque quand David va être appelé, qu'est-ce que va faire ensuite Saül ? Continuellement, il va être à sa poursuite. Avec derrière une haine et une colère, mais qui vont se développer au point d'arriver à vouloir tuer, amener des tentatives de meurtre envers David. Et commettra même le meurtre envers certains sacrificateurs qui auront aidé David. Ça va être un point où il va carrément être atteint d'un point de vue mental, et c'est vraiment même Dieu qui va laisser mener ça, qui va permettre qu'il soit tourmenté. Et ce roi va terminer avec des défaites et avec la mort, il va entraîner sa famille dans la mort, en fait. Une fin un peu glorieuse. On va regarder un petit peu du côté de son fils, maintenant. On va aller revenir un petit peu en arrière. Et je vais tout d'abord prendre 1 Samuel 13, verset 3. C'est juste avant la faute de Saül qu'on a vu tout à l'heure. Quand on prend au verset 3, il est dit « Jonathan bâtit la garnison des Philistins qui était à Geba, et les Philistins l'apprirent. » Et à la suite de ça, en fait, tout Israël va se mettre en œuvre, puisque ce qu'avait fait Saül, c'est que lui avait pris la grosse majorité de la troupe, et il avait laissé une petite partie de la troupe. Lui, il avait 2000 hommes, il en avait laissé 1000 à Jonathan. Et donc Jonathan, avec ses 1000, va remporter une première victoire, et c'est ce qui va enclencher derrière la suite de la victoire d'Israël. Première notion sur Jonathan. On va aller ensuite dans 1 Samuel 14, versets 1 à 23. Donc là, je vais prendre le temps de le lire avec vous. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au serviteur qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à la limite de Guilbéa, sous le grenadier, qui est à Migron, avec une troupe d'environ 600 hommes. Je passe sur les passages un peu de détails, là, de la suite du verset 3. « Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à passer vers le poste des Philistins, il y en avait un avec une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre. » L'une était nommée Botsets et l'autre Séné. L'une de ses dents se dresse au nord en face de Micmas et l'autre au sud en face de Geba. Jonathan dit au serviteur qui portait ses armes, « Viens, passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être le Seigneur agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche le Seigneur de sauver, que ce soit par un petit nombre ou par un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans ton cœur, dans le cœur, n'hésite pas, je suis avec toi comme ton propre cœur. » « Eh bien, dit Jonathan, passons jusqu'à ces hommes et montrons-nous à eux. S'ils nous disent ne bougez pas, nous vous rejoignons, nous resterons sur place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous monterons car le Seigneur nous les a livrés. Ce sera pour nous un signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent « Voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Les hommes du poste dirent à Jonathan, à celui qui portait ses armes, « Montez nous voir, nous avons quelque chose à vous dire. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte derrière moi, car le Seigneur les a livrés à Israël. » Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes montait derrière lui. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Lors de cette première action, Jonathan et celui qui portait ses armes abattirent une vingtaine d'hommes sur l'espace, d'environ la moitié d'un arpent de terre. La frayeur se répandit dans tout le camp, dans la région et parmi tout le peuple. Le poste et les destructeurs furent également saisis de frayeur. La terre trembla, ce fut une frayeur de Dieu. Alors, je m'arrête là. Du coup, vous pourrez aller lire la suite. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la suite de cette action de Jonathan, en fait, le peuple d'Israël va pouvoir décimer tout le camp là, des Philistins. Et il va y avoir même quelque chose qui va se passer, c'est que leur frayeur est telle qu'ils en arrivent à s'entretuer entre eux. Et ça va être une victoire d'Israël à ce moment-là pour cette bataille. Et ensuite, du coup, on va reprendre le passage que j'ai pris tout à l'heure, donc 1 Samuel 24 à 30 et 38 à 46. Vous vous souvenez, Jonathan, il a pris du miel avec son bâton. Il n'était pas au courant de ce que Saül avait dit. Et donc, il est allé à l'encontre de son père. Il se met même vraiment devant la troupe à l'encontre verbalement, puisqu'il va dire que finalement, ce n'est pas une décision sage qui a été faite, que les hommes auraient mieux fait d'être nourris. Et si on prend toute la fin du passage, là où Dieu n'a plus parlé, donc Dieu n'a pas donné de réponse, je vais lire de 38 à 46 dans 1 Samuel 14. « Approchez ici, vous tous, chefs du peuple, voyez bien en quoi il y a eu péché aujourd'hui. Par la vie du Seigneur, le sauveur d'Israël, même si c'est Jonathan, mon fils, qui en est l'auteur, il sera mis à mort. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Or, le peuple savait, puisqu'ils avaient vu pour une partie que Jonathan avait pris le miel. Et lui avait dit, « Ton père nous a dit qu'on ne pouvait pas. » Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, Jonathan, mon fils, et moi, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qu'il te plaira. » Saül dit au Seigneur, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut mis hors de cause. Saül tirait au sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, raconte-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui raconta. J'ai goûté un peu de miel, dit-il, avec l'extrémité du bâton que j'avais à la main, et bien que je meure. Et Saül dit, que Dieu fasse ceci et qu'il y ajoute cela. Tu mourras, Jonathan. Le peuple dit alors à Saül, quoi ? Jonathan mourrait, lui qui a réalisé cette grande victoire en Israël ? Jamais, par la vie du Seigneur, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi en ce jour. Ainsi, le peuple dégagea Jonathan, il ne mourut pas. Encore une situation où on se dit, Saül, franchement, c'est son fils. Il est tellement omnibulé par ce qu'il a enclenché qu'il n'en arrive même plus à voir finalement la bêtise que ça représente et ce qu'il est en train de mener. Ce qu'on voit derrière ça, c'est que Jonathan, et c'est même redit par le peuple, c'est quelqu'un qui est victorieux des ennemis d'Israël, il est inspiré, et c'est quelqu'un qui est sage, vrai, reconnu. Si on fait un petit bilan de ce petit temps de lecture biblique et puis de petits rapports sur la vie de Saül et la vie de Jonathan, j'ai dégagé un certain nombre de points qu'on peut observer par rapport à Saül. Saül, tout d'abord, est soumis à la peur, à la crainte en continu. Et quand son peuple a peur, lui aussi est dans la crainte. C'est quelque chose qu'on va voir s'amplifier tout au long de sa vie. Il n'assume pas sa position et sa responsabilité. Là, en tant que leader, alors là, il est encore moins rassurant, je pense, pour son peuple. Il est inconstant. C'est quelqu'un qui va être jaloux. Jaloux de la place que David va prendre, jaloux de ce qu'il va entendre de la part du peuple comme louange envers David. Orgueilleux. Samuel l'a alerté, Samuel lui a donné le cadre de la part de Dieu dès le départ, mais Saül refuse de changer, il n'y a pas de réelle repentance. Parce qu'il y a des moments où il rattrape Samuel, il lui dit non mais je demande pardon, etc. Mais finalement on voit dans toute la continuité que ce n'est pas une réelle repentance puisqu'il n'y a jamais de changement en profondeur sur son cœur. Il est colérique, amer, haineux, c'est ce qu'il va faire avec David, on parle dans le texte même de haine vraiment. Il ne respecte pas sa parole et ses engagements, puisque plusieurs fois David va même avoir l'occasion de le tuer, ne va pas le faire, va prendre une preuve comme quoi il pouvait le tuer. Et là, Saül, à chaque fois qu'il va voir ça, va dire à David, « Ah oui, mais bon, bah, finalement, je vais plus chercher à te tuer. » Mais en fait, dès que ça va repartir, Saül, il va vouloir commettre un meurtre. Le meurtre, j'en ai parlé d'ailleurs. Il prend des dispositions spirituelles aussi auxquelles il n'est pas appelé. C'est quelque chose qui va être caractéristique dans la vie de Saül. Je vous ai parlé, on a vu le fait qu'il fasse l'offrande alors que Samuel n'est pas là. Et jusqu'à la fin de sa vie, ça va être quelque chose qui va être présent, puisque même à un moment donné, quand Samuel sera décédé, que Saül va sentir que tout dérape, il va faire appel à une voyante, à une magicienne un peu, pour faire appel aux morts et refaire revenir l'esprit de Samuel, qui là va lui annoncer que c'est terminé pour lui et qu'il va mourir du coup sur le champ de bataille. Il se détourne de Dieu, il est aveuglé, il est esclave finalement de tout son cœur mauvais, et c'est quelqu'un qui va finir même totalement tourmenté. On parle dans la Bible, suivant les versions, de folie, d'un état d'esprit, de cœur très noir. Souvenez-vous, si vous avez lu un peu ces passages, il n'y avait que David qui pouvait l'apaiser en venant jouer avec sa harpe. Jalousie, envie et crainte, ça peut nous détourner finalement nous aussi de notre destinée, de notre identité, de notre appel et nous enfermer dans une véritable prison. On n'est peut-être pas à l'état de Saül, mais par moments, y a peut-être des petits traits qui peuvent réapparaître et apparaître chez nous. Dieu l'a alerté, il a permis aussi différentes situations, comme j'expliquais, pour l'amener à la repentance, au changement. Malheureusement, il s'enferme dans ça. Il va même venir à penser que David prend sa place parce que lui, Saül, n'a pas été capable. Mais à un moment donné, la vie dans le royaume de Dieu, elle n'est pas basée sur une performance. Ce n'est pas comme ça que Dieu prévoit les choses. Quand Dieu met en position de conduite, quand il met un leader, c'est vraiment par un appel. C'est un appel à prendre cette place, à conduire les autres, mais non pas pour des conditions de qualification, parce que si on regarde ce que Dieu a fait avec ses disciples, si c'était des conditions de qualification, de diplôme, il a pris le bas peuple au départ. Alors oui, ok, il y avait Matthieu qui était collecteur d'impôts, mais si on regarde, et Luc qui était médecin, mais si on regarde les autres, c'était des pêcheurs. Pas du tout la plus haute catégorie sociale de l'époque. Et c'est pas parce qu'on est meilleur. Si on regarde toujours au fur et à mesure, même David qui a été appelé, a eu pas mal de situations où il a été tenté, il a cédé à la tentation. Lui, par contre, à chaque fois, est revenu vers Dieu avec un cœur repentant. Si on prend aussi les disciples, Pierre, au départ, ce n'est pas un modèle d'exemplarité, dans son côté un peu vaillant, un petit peu foufou, jusqu'à aller trancher une oreille. Ce qui se passe ici, c'est ce que j'expliquais un peu avant, c'est que la crainte va engendrer toute l'amertume de Saül, elle va engendrer le non-pardon et elle va finir par engendrer tous les tourments. Il va être totalement enfermé dans ses ténèbres. Et on va arriver même à une condition pathologique de maladie chez lui, avec cette notion de dépression, de pensée noire que j'évoquais. Alors en me relisant ce matin, ça me faisait presque un petit clin d'œil. Il y en a qui connaissent le film Star Wars, je suppose. Et dans le film Star Wars, pour ceux qui connaissent un peu, les Jedi, il y a une notion où on dit aux Jedi, vous ne devez pas connaître la colère, vous ne devez pas connaître la haine, etc. Et vous savez tous que le Jedi, à un moment donné, la Dark Vador, qui bascule du côté obscur, quand on regarde les films, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a basculé par rapport à la haine, par rapport à la colère, etc. Alors, c'est qu'un film, mais en même temps, il y a une certaine image qui est assez intéressante à retrouver là-dedans. Et en fait, son maître, hein, du coup, à un moment donné, hein, lui avait expliqué, hein, Obi-Wan, de lui dire, mais voilà, attention, Anakin, ne te laisse pas aller à tes sentiments, ne te laisse pas aller à la colère, etc. Et finalement, il va basculer complètement. Alors, l'histoire se terminera bien, parce qu'à un moment donné, il va revenir de tout ça. Mais entre-temps, combien de meurtres, combien de colères, combien de massacres, etc. Ça, c'était juste pour la petite anecdote cinéma. Le cœur de Jonathan. Même si on n'a pas énormément d'éléments sur Jonathan, beaucoup moins que sur Saül et beaucoup moins que sur David, il y a des faits assez marquants. C'est quelqu'un d'inspiré et qui est à l'écoute de Dieu. Parce que mine de rien, commencer à monter sur les deux montagnes en se disant « on y va, Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, il va agir de telle manière », il y a un côté prophétique dans son attitude à Jonathan. C'est quelqu'un de conquérant, d'audacieux, d'engagé, de courageux aussi. Il est à l'écoute de Dieu et il accepte de franchir le pas. Par moments, Dieu peut nous laisser des portes ouvertes devant nous. Et il y a des moments où on se dit « ouf, ouais, non, là, c'est un peu déstabilisant. Seigneur, tu me dis de quitter mon boulot pour aller là, mais peut-être pas. » Jonathan, lui, n'hésite pas. Il a ce côté courageux. Il a aussi ce côté sage. Il suffit de voir sa réaction avec l'histoire du miel. Ce côté vrai, authentique. Quand Saül appelle et que les sorts désignent, Jonathan, il ne se débine pas. Il y va. Et puis il dit « bah ok, que je meure. » Il ne va pas chercher à raconter d'excuses, comme ferait son père, puisqu'on le voit à plusieurs reprises face à Samuel. Des moments, Saül dit « oui, mais ce n'est pas moi, c'est le peuple. » C'est quelqu'un de plutôt humble. Il marche avec la troupe, il est dans la même condition qu'elle, il est loyal. Il s'entoure et s'appuie sur les autres. Souvent, quand vous même lisez la suite de l'histoire, quand Jonathan va aussi se lier d'amitié avec David, il y a souvent une notion où Jonathan est avec son serviteur, et dans les échanges qu'il a avec son serviteur, on sent que c'est quelqu'un, tel que c'est écrit en tout cas, qui a l'air de considérer ceux qu'il a autour de lui. La preuve aussi, l'amitié un peu modèle qu'il va avoir avec David. Il a l'amour de son prochain, il va chercher à sauver David. C'est quelqu'un qui a Dieu avec lui, hein, il le proclame aussi, hein, il dit bien quand il a ses victoires, c'est pas quelqu'un qui va chercher à s'enorgueillir. Il va remettre ça devant Dieu, en fait. C'est mis de manière très brève, mais c'est ce qu'on voit. Et du coup, c'est quelqu'un qui remporte des victoires et qui a un impact autour de lui. Et qui rend gloire à Dieu au travers de son attitude globale que je viens d'écrire là. On a d'autres exemples, hein, bibliques de ce cœur un petit peu victorieux. Vous pourriez aller lire la vie de David, justement. Mais si on va un petit peu avant, dans l'Ancien Testament, on a toute la notion, par exemple, de la vie de Josué, de la vie de Gédéon aussi. À un moment donné, Gédéon, c'était peut-être pas initialement sur le papier le meilleur guerrier. C'est celui qui va délivrer Israël derrière, parce qu'il y avait aussi ce cœur qui était adapté devant Dieu, un cœur qui était malléable, qui était prêt vraiment à se consacrer à ce que Dieu disait. Victorieux. Eh bien, nous sommes appelés, nous aussi, je pense, en tout cas, à vivre avec ce cœur victorieux dans nos vies, nos situations, nos circonstances. Romains 12, verset 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Donc, on retrouve cette notion de victoire. Et 1 Timothée 6, verset 11 à 14 nous dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé. On retrouve cette notion d'un combat et derrière d'une victoire en quelque sorte, avec cette notion de la vie éternelle. Et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins, devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que fils et filles du roi, nous sommes en fait appelés à laisser tout ce qui nous emprisonne derrière nous, et à nous consacrer réellement sur notre appel. L'un des appels essentiels de notre vie, quand on a donné notre vie à Dieu, c'est de pouvoir lui rendre gloire. En Christ, nous sommes pardonnés, nous devons refuser tout ce qui, à un moment donné, peut nous rattacher à des mensonges aussi, à des faits du passé qui ne seraient pas justes, auxquels l'ennemi, lui, il prend un malin plaisir, un Satan, à pouvoir venir nous rattacher à ça. Et on doit chercher à être beaucoup plus attaché à la vérité, à la parole. Nous avons la vie éternelle quand nous reconnaissons Christ comme notre sauveur, et ça, c'est la grâce. Il a porté le poids et la dette de notre péché, nous a pardonné, et on est sauvé à partir du moment où on fait cette démarche de venir auprès de lui et de dire « je te reconnais comme mon sauveur ». Mais l'étape supplémentaire à laquelle on est tous appelés, et ça on le retrouve beaucoup dans toute la suite du Nouveau Testament, c'est ce fait de mourir à soi-même. Et c'est très clair dans le Nouveau Testament, mais finalement ce qui m'a intéressé ici en montrant ce passage et cette histoire de Saül, c'est que finalement cette notion de mourir à soi-même, elle était déjà inscrite en quelque sorte dans le plan de Dieu dès le départ. Et ça, c'est vivre Christ non plus seulement comme sauveur, mais vivre Christ comme Seigneur de notre vie dans tous les domaines de notre vie. C'est une approche qui va aussi un peu à l'encontre de toute pensée et de toute logique humaine. Et on va voir pourquoi juste à la suite. On est appelé, du coup, à fuir le péché. C'est ce qu'on trouve, du coup, dans Romains 6. Je vais prendre avec vous. Au verset 11 et 12. Ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses désirs. On est ensuite appelé à marcher selon l'Esprit. Galates 5, versets 13 à 26, c'est là où on va retrouver toute la notion des fruits de l'Esprit. On est appelé à vivre aussi selon les valeurs du royaume de Dieu et à être témoin. Ça, c'est Matthieu 5, versets 1 à 6. Je les passe parce que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais vous pouvez aller les rechercher. Vivre selon les valeurs du royaume, c'est aussi vivre finalement à l'encontre de valeurs telles qu'on le voit dans notre monde d'aujourd'hui, où on est énormément sur un aspect d'égocentrisme finalement, de plaisir personnel. Dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça, j'ai rien contre les photos, tout ça, mais c'est énormément centré sur le moi finalement et très peu sur les autres. Et quand on prend les béatitudes, eh bien, c'est un renversement total des valeurs. On est appelé du coup à aimer notre prochain de manière profonde. Dans Matthieu 5, on est aussi appelé à être ce sel et cette lumière dans le monde ici-bas. Et pour ça, on a un certain nombre d'armes qui sont évoquées dans Éphésiens 6, versets 10 à 20, qu'on va prendre là. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons. Merci de l'avoir pris pendant le temps de louange. Ça fait un bon lien. Mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances ce bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je m'arrête là, toute la fin est consacrée au fait de pouvoir prier et être engagé, investi, de combattre dans la prière. On retrouve dans cette notion d'arme finalement tout l'aspect d'ancrage dans la parole de Dieu, aussi tout l'aspect défensif que nous donne Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont faites pour se défendre, mais qui sont aussi faites pour, à un moment donné, être offensif. Dieu veut votre réussite à chacun et à chacune, à moi aussi. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il est dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout et à travers nous le parfum de sa connaissance. Vous êtes appelés à être acteurs en Christ sous l'inspiration de son esprit et on a le droit et même le devoir de se positionner devant les autorités célestes, devant l'ennemi à un moment donné, quand on cherche à nous rattacher du coup à des choses du passé qui nous emprisonnent. Il faut savoir qu'il y a des choses aussi dans nos vies, parfois, qui ne sont pas liées qu'à l'ennemi, parce que parfois on dit « oui, c'est l'ennemi qui m'attaque », etc. Il y a des moments où Dieu nous a mis aussi devant des positions, devant des choix à faire, et finalement, par rapport à ça, comme je l'évoquais auparavant, on va avoir une notion très passive. le Saint-Esprit ne va pas tout faire à votre place. Parce que sinon, on ne serait que des marionnettes. Et ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses avec nous. Il nous aime tellement qu'il nous laisse cette capacité, cette possibilité de choix. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne peut pas nous attaquer, nous amener un certain nombre d'épreuves, mais il faut apprendre à discerner à un moment donné ces choses-là. La victoire, elle s'ancre du coup dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la louange, qui peut être aussi un lien fort et puissant avec la prière, dans le fait de vivre sa foi chaque jour, d'obéir, de s'engager, de changer aussi. Ce n'est pas juste de dire « Oui, Seigneur, ok, je m'engage », mais il faut vraiment derrière mettre en œuvre les choses pour changer. Dans le fait aussi d'accepter du soutien, d'accepter d'avoir des frères, des sœurs en Christ qui puissent être de bons appuis pour nous. Tout ça, c'est courir vers le but tel que c'est évoqué dans Philippiens 3, tel que Paul l'évoque, pour obtenir cette notion de récompense et de vie éternelle. J'en ai terminé avec mon partage. Juste avant de finir, quand j'ai préparé tout ce message, j'avais deux images qui me sont venues. J'aimerais vous les partager avant que je puisse prier pour conclure. La première image que j'ai vue, c'est du coup, ça m'est venu il y a quelques semaines et ça m'est vraiment revenu pendant ce message, donc je pense que je dois pendant toute la préparation. Donc je pense vraiment, et ce matin c'était encore fort, que je dois vous la partager. Je pense que ça s'adresse à une ou à des femmes de cette assemblée. J'ai vu du coup une femme assise, il n'y avait pas de visage précis, mais dans une pièce sombre et noire et sans lumière. Il y avait juste un rideau à un moment donné qui donnait sur une fenêtre extérieure en fait. Et derrière le rideau, il y avait énormément de lumière. Et je pense que ça fait du lien aussi avec ce que j'ai abordé ce matin. Et la phrase que Dieu disait à cette personne ou à ces femmes, à un moment donné, c'est le moment de se lever et d'aller tirer le rideau. C'est plus le moment d'être assis et de pleurer. Le moment maintenant est devenu de laisser rentrer pleinement la lumière et il y a un soleil rayonnant qui arrive. Et la deuxième image que j'ai eue, là, elle est plus générale. Je n'ai pas de personne spécifique, mais c'est une image un petit peu pour donner un complément par rapport à ce que j'ai expliqué. Vous savez que je suis du milieu soignant, je suis infirmier à la base. Et j'ai eu l'occasion de soigner, d'accompagner des personnes qui ont des problématiques cardiaques. Alors là, vraiment le cœur sur un point de vue physique. Et j'aimerais faire un parallèle sur une chose. Le cœur, à un moment donné, on peut avoir ce qu'on appelle des tachycardies, c'est-à-dire un cœur qui bat très vite, qui bat plus de manière normale. On peut avoir un cœur qui bat trop lentement, donc on appelle la bradycardie. On peut avoir aussi des pathologies comme, à un moment donné, ce qu'on appelle l'angore, qui peut amener l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire qu'on a des petits dépôts dans les vaisseaux qui entourent le muscle du cœur et qui font qu'à un moment donné, il y a des zones de ce cœur qui ne vont plus être vascularisées, qui ne vont plus être oxygénées, et ça va se nécroser, c'est-à-dire que ça va mourir. Et on peut aussi avoir d'autres pathologies comme l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, alors un vaste mot scientifique. Pour vous expliquer très simplement, c'est à un moment donné le cœur qui bat de manière très irrégulière et ça va provoquer, et ça peut provoquer des petits caillots de sang, et ces caillots de sang peuvent amener jusqu'à un accident vasculaire cérébral, parce que les petits caillots peuvent remonter et boucher les artères cérébrales. Et l'interpellation que j'avais au travers de cette image, à un moment donné, sans être culpabilisant, parce que je la pose pour moi aussi, c'est finalement aujourd'hui, où est ton cœur, où en est ton état de cœur? Est-ce que ton cœur est pleinement sain? Et dans ce cas, tant mieux. Est-ce que dans ton cœur, il n'y a pas des moments, un point de vue là, on rebascule sur le côté spirituel, où tu ne bats pas au rythme que Dieu a prévu pour toi? Est-ce que tu n'es pas aussi dans cette irrégularité de rythme et de lien avec Dieu? Et sois vigilant, parce qu'à un moment donné, du coup, ça peut t'amener, comme on l'a vu avec Saül, vers des notions qui vont jusqu'à la mort, en fait. J'en ai terminé avec ce partage avec vous et j'aimerais pouvoir juste prier avant qu'on ait le temps de Sainte-Cène. Et du coup, dans la prière, laissez-vous interpeller. Si vous avez des choses à déposer devant Dieu, c'est peut-être le moment de le faire. Un peu comme l'a partagé Geoffrey sur le fait de garder le cap. Puis la semaine dernière, Bruno partageait encore sur cette notion de, à un moment donné, même s'il était sur le prophétique, à la fin de son message, il y a eu un temps d'appel aussi sur les choses qui peuvent nous bloquer dans notre avancée avec Dieu. On est dans un temps d'été. Alors l'été, c'est souvent un temps où on peut pour plusieurs, se détendre, prendre des congés, tout ça. Mais je veux vraiment vous encourager à pouvoir garder votre cœur focalisé sur Dieu durant ce temps, à prendre aussi peut-être le temps du repos pour faire le point avec lui sur ce qu'il a à vous dire, sur ce qu'il désire pour vous, ce qu'il veut peut-être voir évoluer, changer, ce qu'il a comme saison aussi à venir pour votre vie. On sait que dans l'Église, là, on est en train de vivre plein de choses qui cheminent, qui avancent. Bruno, voilà, a déjà beaucoup partagé dessus. Puis dans l'équipe des responsables, ça partage sur ces notions. Damien aussi a rappelé la vision, tout ça. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité au travers de cet été pour pouvoir remettre tout cela, remettre nos personnes aussi devant Dieu et ne pas redémarrer juste septembre parce que c'est septembre et que c'est une nouvelle année scolaire, mais pouvoir avoir une vraie continuité par rapport à tout ce qu'on vit ensemble. Un dernier point, juste avant que je prie, il y avait un chant que j'avais à cœur, alors que c'est un chant qui est en anglais à la base, mais je vous parlais du fait de la puissance de la louange sur les circonstances qu'on vit. Et je vous lis juste les deux couplets de ce chant. Alors, il existe en anglais, vous pouvez le trouver en une petite traduction française qui traîne sur YouTube. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un alléluia, mon arme est une mélodie. J'élève un alléluia, le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. J'élève un alléluia avec tout ce qui est en moi. J'élève un alléluia, les ténèbres fuient, je le vois. J'élève un alléluia, même quand tout semble mystérieux, sombre. J'élève un alléluia, la peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu qui manifeste un plein amour envers chacun d'entre nous. Je veux te remercier pour le sacrifice de Jésus à la croix qui a payé ce prix ultime pour qu'on soit pardonné et qu'on soit libéré du fardeau de nos péchés. Père, on veut vraiment vivre une vie avec toi où on te considère et on te vit pleinement comme Seigneur de notre vie. On veut vraiment pouvoir te rendre totalement gloire dans tout ce qu'on peut mener, Seigneur, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos familles, dans nos vies professionnelles, dans cette assemblée. Je veux te prier pour tous ceux ce matin qui ont peut-être des poids, des choses qui les bloquent dans leur cœur, Père. Merci pour la manière dont tu as pu parler, dont tu as pu interpeller les cœurs. Et on veut vraiment prendre ce temps pour déposer les choses devant toi et se laisser vraiment interpeller par ton esprit sur ce que tu veux voir évoluer, changer en nous. Seigneur, merci parce que tu le fais avec énormément d'amour envers nous. Merci parce que tu as cette patience avec chacun d'entre nous. Et que tu n'es pas un Dieu qui vient nous brusquer n'importe comment. Père, merci pour tout ce qui est en train de se vivre dans cette assemblée. Seigneur, que ce temps d'été, ce soit vraiment un temps de rafraîchissement, de nos renouvellements, que ce ne soit pas une coupure, Seigneur, de la relation avec toi et de la vision que tu es en train de donner, de prendre acte à Betzalel. Nous te remettons, Père, tous ceux qui ne pouvaient pas être avec nous ce matin, que ce soit pour des vacances, Seigneur, ou pour d'autres raisons. On veut penser peut-être à tous ceux qui sont fatigués et malades. Je te les remets vraiment dans ton nom. Renouvelle-les, Seigneur, et viens apaiser et guérir. Prends soin aussi de Bruno, Seigneur, de sa famille durant ce temps de congé qu'ils ont, et que ce soit un temps puissant de renouvellement pour toute leur famille, Père. Amen.